CFAQ.ca.
Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAQ.
CFAQ 88.3, l'essence de la radio.
Le condensé juridique, l'émission parfaite pour connaître et comprendre vos droits. CFAQ 88.3, l'essence de l'information.
La présente capsule ne contient aucun conseil juridique. La présente capsule a été préparée avec l'aide d'étudiantes en droit bénévole de la section PBSC Université de Sherbrooke. Les étudiantes de PBSC ne sont pas avocates et n'ont pas l'autorisation de fournir des conseils juridiques. La présente capsule ne présente qu'un exposé général de certaines questions juridiques et connexes. Si vous avez besoin de conseils juridiques, veuillez consulter un avocat ou une avocate. Okay. Donc, cette semaine, dans le condensé juridique, on va être dans le domaine du droit du travail. Donc, dans la dernière série de capsules sur le droit du travail, il était question de la notion de contrat de travail. Cette semaine, on va plutôt parler des rapports individuels. Donc, le principe derrière les rapports individuels, c'est des protections individuelles qui vont être accordées à tous les salariés. Puis, dans le fond, ça, on va venir faire la différence avec tout ce qui est convention collective dont on va parler dans la prochaine série de capsules. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais laisser Alexandra vous préciser, en fait, que sont ces rapports individuels.
Merci Maude. En fait, il faut savoir qu'au Québec, il existe certaines lois qui vont viser à accorder une protection de base à tous les salariés, qu'ils soient syndiqués ou non. L'objectif de ces lois-là, c'est de rétablir le rapport de force entre l'employeur et le salarié, parce que il faut savoir qu'au départ, le rapport de force est bien évidemment à l'avantage de l'employeur. Donc, ces lois-là vont venir permettre de rétablir un certain équilibre. Comme il y a plusieurs protections qui sont accordées en vertu de ces lois-là, c'est des lois qu'on va dire d'ordre public.
On pourrait peut-être prendre un instant juste pour définir cette notion-là d'ordre public, parce que c'est vraiment important dans le domaine des rapports individuels.
Oui, c'est parfait. En fait, quand on parle d'ordre public, ce qu'on veut dire, c'est que les parties peuvent pas y déroger. Donc, la loi en question va avoir un caractère obligatoire. La seule chose qu'on peut faire, c'est de donner des protections supplémentaires. On pourra pas donner des éléments qui sont moindres que ce que la loi offre. Par exemple, on va voir ça au niveau des conventions collectives. Puis, tout ce qu'on va traiter par la suite dans les prochaines capsules, ça va par exemple, être justement des éléments de protection d'ordre public. Si on prend l'exemple du salaire minimum qu'on pourra justement traiter prochainement, ce que la loi va offrir comme salaire minimum, l'employeur ne pourrait pas donner quelque chose de moindre que ce qui est prévu par la loi. On pourrait simplement donner un salaire qui est plus élevé que le salaire minimum prévu lorsque la loi va s'appliquer.
Donc, un autre point qui est super intéressant, c'est quand on parle d'ordre public, en fait, c'est qu'on peut seulement offrir une condition de travail qui est plus avantageuse que ce qui est prévu dans les normes du travail. Donc, dans l'exemple de salaire minimum qu'Alexandra a donné, c'est quand même facile à s'imaginer dans le sens que il y a personne qui va s'opposer à avoir un salaire qui est au-dessus du salaire minimum. Mais cette notion-là de condition de travail plus avantageuse, ça peut pas être décidé seulement entre le salarié et l'employeur. Il faut que ça soit une condition qui est objectivement plus avantageuse. En fond, ça, ce que ça veut dire, c'est que dans l'absolu, la majorité des gens vont trouver que c'est plus avantageux. Souvent, en droit, on va utiliser le critère de la personne raisonnable. En fond, ce que ça veut dire, c'est que la personne raisonnable qui est placée dans les mêmes circonstances, elle va trouver que c'est une condition de travail qui est plus avantageuse. Sinon, pour s'aider dans la réflexion aussi, on peut aussi utiliser le critère du bon père de famille. En fait, c'est le critère qui historiquement était utilisé, mais depuis, on l'a changé pour utiliser le critère de la personne raisonnable. Et dans le fond, l'idée, c'était de se dire qu'est-ce qu'un bon père de famille penserait de cette condition de travail-là. Donc, c'est vraiment important de venir évaluer la condition de travail dans l'absolu. Il ne faut pas juste se fier à la préférence personnelle du salarié en question.
Oui, puis en fait, c'est sûr que nous, pour les prochaines capsules incluant la présente, c'est sûr que nous, on va traiter principalement de la loi sur les normes du travail. Par contre, il faut savoir aussi qu'il y a quand même d'autres lois dans le domaine du droit du travail qui sont d'ordre public. On peut penser, par exemple, à la loi sur la santé et la sécurité du travail et la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qu'on pourra traiter dans une prochaine capsule, mais également la loi sur l'équité salariale. Donc, comme on disait, en fait, ici, on va principalement traiter sur de la loi sur les normes du travail. qui, comme on disait, a une force obligatoire. Donc, on peut pas aller à l'encontre de ce qui est prévu, sauf pour apporter quelque chose de plus avantageux. Par contre, on parle beaucoup de protection depuis le début, il y a quand même des exceptions qui vont s'appliquer. Donc, cette loi-là va pas s'appliquer à toutes les personnes. Pour savoir qui sont les exceptions de cette loi-là et à qui la loi s'applique, il faut s'arrêter aux définitions. Et au niveau de la loi sur les normes du travail, c'est surtout la définition de salarié qui va nous permettre de savoir si elle s'applique ou non. Le salarié, en fait, va viser la personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire. Puis ça comprend aussi le salarié qui va exécuter un travail selon les méthodes et moyens déterminés par l'employeur. Et qui va fournir le matériel et l'équipement qui vont être choisis aussi par l'employeur. On peut penser par exemple à un pigiste, un sous-traitant ou un vendeur à commission. Donc, la loi ne sera pas nécessairement applicable pour les personnes qui ne correspondront pas à cette définition. Puis, c'est ça qui est vraiment important aussi de regarder. Donc, pour chacune des lois dont on va parler en matière de droit du travail, chaque loi a des définitions vraiment distinctes. Donc, une loi pourrait s'appliquer à nous, comme une autre pourrait ne pas s'appliquer. Donc, c'est vraiment important de s'assurer qu'on répond bien à la définition de chacune des lois.
Donc, comme Alexandra vient de le présenter, il y a une définition de base qui est donnée pour le salarié dans la loi sur les normes du travail. Puis, si on n'entre pas dans cette définition-là, en fait, on ne serait pas visé par la loi. Donc, on peut considérer ça comme une sorte d'exclusion. Mais il y a aussi d'autres personnes qui sont visées dans la loi pour lesquelles ça va être précisément prévu qu'ils vont être exclus des protections qui sont accordées par la loi sur les normes du travail. Donc, c'est des personnes, si on regarde la définition de base, qui normalement devraient être incluses, mais qui malheureusement ne le seront pas. Donc, ça, c'est par exemple le cas des cadres supérieurs. A priori, un cadre supérieur, c'est quelqu'un qui remplit la définition de salarié parce qu'il va travailler pour un employeur puis il va avoir droit à un salaire. Mais la loi veut préciser spécifiquement que les cadres supérieurs sont exclus de la majorité des normes de la loi, sauf quelques exceptions comme les congés de maternité ou les congés de paternité. La loi ne donne pas de définition de ce qu'est un cadre supérieur, contrairement à la définition de salarié. C'est plutôt les tribunaux au fil du temps qui sont venus dresser une définition. Donc, en général, on va considérer qu'un cadre supérieur, c'est quelqu'un qui est dans le haut de la pyramide hiérarchique. Il va souvent dépendre du conseil d'administration. Il va avoir assez de pouvoir pour lier l'entreprise ou pour lui donner des orientations. Donc, pour déterminer si quelqu'un est un cadre supérieur, c'est vraiment ces critères-là qui sont à prendre en compte. Donc, il faut regarder dans la réalité c'est quoi son travail puis quels sont ses pouvoirs. Il ne faut pas seulement se fier au titre que la personne a.
Donc, si j'en comprends bien ce que tu nous dis, Maude, en fait, c'est pas tous les cadres qui seraient visés par cette exception-là?
Exactement. Dans le fond, c'est pas rare de voir dans des entreprises qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont avoir le statut de cadre, mais cette exception-là, elle vient vraiment viser ceux qui sont dans le haut de la pyramide de l'entreprise. Donc, les autres cadres, ceux qui sont plus intermédiaires ou au milieu, si on veut, de la pyramide, ils vont quand même être protégés par la loi sur les normes du travail. Donc, en plus de ces cadres supérieurs-là, il y a d'autres personnes qui sont exclues de l'application de la loi sur les normes du travail, comme le gardien, le salarié de la construction, le salarié pour lequel il y a d'autres règlements, dans le fond, qui vont venir prévoir qui est exclu de la loi sur les normes du travail. L'étudiant qui participe à un programme d'initiation au travail, donc ça serait un étudiant qui, pendant l'année scolaire, va venir travailler dans un établissement qui a été choisi par son institution d'enseignement. Puis, une autre personne qui est exclue de l'application de la loi, c'est l'athlète dont l'appartenance à une équipe sportive est conditionnelle à la poursuite d'un programme scolaire. Donc, je viens de vous faire la liste des personnes qui sont exclues de l'application de la loi sur les normes du travail. Mais ces personnes-là ont quand même certaines protections dont elles peuvent bénéficier, comme la protection contre la mise à la retraite obligatoire ou la protection contre le harcèlement psychologique. Donc, vu que ces personnes-là bénéficient de ces deux protections, si jamais elles ont besoin d'intenter un recours pour mettre en œuvre leur protection, bien, elles vont pouvoir le faire, même si, a priori, elles sont exclues de la loi sur les normes du travail.
Donc, on a vu aujourd'hui qu'il existe des lois, comme la loi sur les normes du travail, qui vont apporter une certaine protection en matière de droit du travail, puis que ces lois-là ont une force obligatoire. Donc, on peut pas offrir plus, on peut seulement offrir plus que ce qu'elles prévoient déjà, on peut pas offrir moins. On a également vu que ces protections-là vont pas s'appliquer à tout le monde. Donc, faut vraiment bien s'assurer qu'on fasse partie de la définition de salarié en matière de la loi sur les normes du travail. Mais malgré tout, il y a quand même certaines protections qui vont quand même trouver application. Donc, dans la prochaine capsule, on continuera de parler de la loi sur les normes du travail, mais on traitera principalement du salaire et des pourboires. Donc, merci beaucoup.
Ça sert à rien.
présente capsule ne contient aucun conseil juridique. La présente capsule a été préparée avec l'aide d'étudiantes en droit bénévole de la section PBSC Université de Sherbrooke. Les étudiantes de PBSC ne sont pas avocates et n'ont pas l'autorisation de fournir des conseils juridiques. La présente capsule ne présente qu'un exposé général de certaines questions juridiques et connexes. Si vous avez besoin de conseils juridiques, veuillez consulter un avocat ou une avocate. Dans cette deuxième capsule de la série sur les rapports individuels en matière de droit du travail, on va discuter de tout ce qui touche le salaire et les pourboires. Donc, les normes relatives au salaire et aux pourboires, c'est des normes qui sont dites d'ordre public. Si vous voulez plus d'explications sur ce concept-là, on vous invite à l'écouter la première capsule dans laquelle on a donné des explications. Sinon, juste pour résumer rapidement, en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est des normes minimales. Donc, notre employeur, il peut nous donner des conditions qui sont plus avantageuses, mais il peut pas aller en dessous de ce qui est prévu dans la loi. Donc, on va commencer tout de suite avec Alexandra qui va nous parler un peu du salaire minimum.
Oui, en fait, il faut savoir que la loi sur les normes établit l'existence du salaire minimum. Donc, comme Maude l'a expliqué, en fait, le salaire minimum est d'ordre public, donc a force obligatoire. Donc, lorsqu'il s'applique, lorsque la loi sur les normes s'applique, un employeur peut pas aller contre le salaire minimum ou donner moins, il peut seulement donner plus. Et ça s'applique même si le salarié est rémunéré à commission ou au rendement. Également, il faut savoir qu'il n'y a aucun autre avantage qui serait de valeur monétaire qui doit entrer dans le calcul du salaire minimum, par exemple un loyer ou des rabais. Également, un employeur ne pourrait pas verser un taux salaire inférieur à un salarié qui effectue les mêmes tâches qu'un autre, par exemple à cause de son statut.
Donc, ça, c'est intéressant parce que ça touche beaucoup les étudiants. En fait, quand on parle du statut, on parle, par exemple, du nombre d'heures qui est travaillé. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si un employé à temps partiel puis un employé à temps plein font exactement les mêmes tâches, mais l'employé à temps partiel, il peut pas gagner un salaire moindre juste parce qu'il est à temps partiel s'il effectue exactement le même travail.
Également, sauf exception, le salarié va avoir le droit à une rémunération minimale de 3 heures consécutives lorsque l'employeur lui demande de venir au travail. Donc, par exemple, si un employeur demande à un salarié à ce qu'il se présente au travail, mais que le salarié retourne chez lui après 1 heure de travail, le salarié aurait le droit à une rémunération qui serait équivalente à 3 heures de travail quand même. On parle au niveau du salaire minimum. Par contre, il faut savoir qu'il y a quand même certaines catégories de salariés qui seraient exclus du salaire minimum. On peut, par exemple, penser à l'étudiant qui est employé dans un organisme à but non lucratif, comme par exemple une colonie de vacances ou un organisme de loisirs, ou également le stagiaire dans le cadre d'une formation professionnelle reconnue par une loi. C'est le cas notamment des stages non rémunérés, comme on voit fréquemment comme étudiant. En ce moment, le salaire minimum est de 13,10 $. Pour un salarié qui est à pourboire, le salaire minimum va par contre être de 10,45 $. Le salaire minimum va changer habituellement autour du 1er mai de chaque année.
Il y a certains emplois pour lesquels le salaire minimum, en fait, ne va pas être déterminé selon le nombre d'heures travaillées, mais ça va plutôt être en fonction du rendement. Donc ça, c'est le cas pour la cueillette de petits fruits, comme la cueillette de fraises ou de framboises. Donc pour les fraises, en fait, le salaire minimum il va être de 1,04 $ pour le kilogramme de fraises ramassées. Puis pour les framboises, ça va plutôt être 3,89 $ le kilogramme. Toutefois, c'est important de savoir que pour les salariés qui font de la cueillette de fraises ou de framboises, ils peuvent pas toucher un salaire qui est inférieur au salaire minimum si c'est dû à des raisons qui sont hors de leur contrôle, qui concernent l'état des champs ou des fruits. Donc, si cette année-là, les récoltes sont pas bonnes ou qu'il y a des conditions météo qui font en sorte qu'ils peuvent pas ramasser autant qu'ils le feraient normalement, mais ils peuvent pas gagner en dessous du salaire minimum. Donc, c'est à leur employeur de leur verser minimalement ce taux-là.
La loi sur les normes va aussi prévoir à quelle fréquence et comment le salaire va être payé, ce que doit contenir un bulletin de paye, dans quelles conditions l'employeur peut faire une retenue sur le salaire et aussi les règles particulières pour les employés à pourboire. Donc, le salaire peut être payé, par exemple, de 3 façons. En espèces, donc en argent, dans une enveloppe scellée, par chèque ou par virement bancaire. Puis aussi, en général, le salaire doit être versé à un intervalle régulier qui ne doit pas dépasser autour de 16 jours. Si le jour du paiement du salaire tombe un jour férié et chômé, le salaire va être alors versé au jour ouvrable qui précède ce jour férié. On va parler des jours fériés et chômés lors d'une prochaine capsule, donc ça va vous permettre de vous éclairer davantage sur cet aspect du salaire. Également, si l'employeur rend obligatoire le port de vêtements particuliers ou l'utilisation de matériel pour l'exécution du contrat, il faut que l'employeur fournisse ces items-là gratuitement aux salariés.
Donc, on a discuté des normes relatives au bulletin de paie. En fait, c'est obligatoire de remettre un bulletin de paie en remettant le salaire au salarié. Puis ça sert à ce que le salarié puisse vérifier le calcul de son salaire puis que le montant qui lui a été versé est le bon. Donc, il y a des informations minimales que doit contenir le bulletin de paie pour permettre au salarié de faire ces calculs-là. Donc, il doit notamment contenir le nom de l'employeur, le nom du salarié, la date de paiement, la période de travail qui est visée par le paiement, le taux du salaire, le nombre d'heures qui a été payé au salaire normal. Si le salarié a travaillé des heures supplémentaires, il faut spécifier le nombre d'heures supplémentaires qui a été payé, le montant du salaire brut, le montant et la nature des déductions qui ont été appliquées, puis le salaire net qui a été versé. Si jamais le salarié a droit à des pourboires, il faut aussi que le montant de ces pourboires-là soit inscrit sur le bulletin de paie, le cas échéant. Un élément important à mentionner, c'est que le fait d'accepter un bulletin de paie, ça ne signifie pas que le salarié veut renoncer à un salaire ou à une partie de salaire qui lui est due. Donc, si jamais, en consultant son bulletin de paie, un salarié se rend compte qu'il y a un montant qui aurait dû lui être versé puis que ça n'a pas été fait, c'est pas parce qu'il a accepté le bulletin de paie qu'il peut rien faire par rapport à ça. Il a quand même le droit à ces montants-là.
Également, il y a des particularités pour les salariés à pourboire. Donc, si un client verse un pourboire, que ce soit directement ou indirectement, le pourboire appartient au salarié qui a rendu le service. Si c'est l'employeur qui perçoit le pourboire, il doit quand même le remettre au salarié qui a rendu ce service-là. Puis, comme on en parlait plus tôt, le pourboire peut pas être inclus dans le salaire qui est dû au salarié par l'employeur. Donc, dans le fond, l'employeur doit quand même verser au salarié minimalement le salaire minimum convenu sans tenir compte du pourboire. On a vu tantôt qu'il y avait un taux de salaire minimum prévu pour les salariés à pourboire. L'employeur peut pas non plus imposer un partage de pourboire entre les salariés. Ça peut se faire. Par contre, il faut que ça vienne d'une entente qui est libre et volontaire de la part des salariés entre eux.
Donc, maintenant, on va discuter d'un recours qui s'offre aux personnes pour lesquelles ils n'ont pas reçu le salaire auquel ils avaient droit. Donc, c'est ce qu'on appelle la plainte pécuniaire. Donc, c'est une plainte qui vise seulement à obtenir un montant d'argent. Donc, par exemple, si j'ai pas été payé au taux de salaire minimum ou si j'ai pas été payé au taux majoré lorsque j'ai fait des heures supplémentaires, mais c'est un recours qui s'offre à moi. Lorsqu'on se rend compte que notre employeur a fait défaut en ce qui concerne notre paye, on a un an pour agir. Donc, c'est un an à partir de la découverte de cette erreur-là. Donc, ce que ça veut dire, c'est, par exemple, que je suis payée à l'heure, j'ai travaillé 42 heures une semaine, puis que mon employeur m'a payé toutes mes heures à un taux simple et non au taux d'heures supplémentaires. Mais quand je vais recevoir ma paie, puis que je vais voir que cette erreur-là a été faite, je vais avoir un an à partir de cette journée-là pour déposer une plainte pécuniaire. Dans le fond, comment ça fonctionne, ce processus-là, c'est que je vais devoir m'adresser à la Commission des normes de l'équité, de la santé et sécurité du travail, donc la CNESST, puis je vais leur décrire la situation. La CNESST, c'est l'organisme administratif référentiel en matière de relations de travail. Donc, c'est elle qui va envoyer un avis d'enquête à l'employeur en disant qu'elle va venir enquêter pour voir s'il y a une violation des normes du travail. Si la CNESST est d'avis que j'aurais dû être payée, mais elle va laisser un délai à mon employeur pour le faire. Mais si jamais il ne le fait pas, on va judiciariser l'affaire. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va aller devant les tribunaux. Si jamais ça se rend devant les tribunaux, on va aller soit devant la Cour du Québec ou la Cour supérieure, dépendamment du montant en question. Puis, dans ce cas-là, c'est la CNESST qui va nous représenter gratuitement. Donc, de notre côté, on n'aura pas engagé un avocat ou à payer certains frais.
Donc, on a vu dans cette capsule que le salaire minimum, comme pour d'autres composantes de la loi sur les normes du travail et d'autres publics, pour ceux à qui il s'applique. Donc, on a vu aussi que la loi sur les normes prévoit de quelle manière le salaire minimum doit être versé et à quelle fréquence, mais aussi tout ce qui touche les salariés à pourboire. Dans tous les cas, on a également vu quel recours un salarié peut utiliser dans le cas où un employeur aurait commis une faute en lien avec notre, avec la paie du salarié. Donc, en espérant que cette capsule vous a plu, on vous revient avec une prochaine capsule sur la durée du travail et les heures supplémentaires.
La présente capsule ne contient aucun conseil juridique. La présente capsule a été préparée avec l'aide d'étudiantes en droit bénévole de la section PBSC Université de Sherbrooke. Les étudiantes de PBSC ne sont pas avocates et n'ont pas l'autorisation de fournir des conseils juridiques. La présente capsule ne présente qu'un exposé général de certaines questions juridiques et connexes. Si vous avez besoin de conseils juridiques, veuillez consulter un avocat ou une avocate. Donc, bienvenue à cette troisième capsule sur les rapports individuels en matière de droit du travail. Aujourd'hui, on va discuter plus précisément de ce qu'est la durée du travail et de la notion des heures supplémentaires. Donc, avant de comprendre les heures supplémentaires, c'est important de bien définir c'est quoi la durée de travail normale, qui est normalement définie comme la semaine normale de travail. Puis la loi sur les normes du travail prévoit que la semaine normale de travail est établie à 40 heures par semaine, sauf exception. Donc, c'est toutes les heures qui vont être effectuées au-delà de ce seuil de 40 heures par semaine qui vont être considérées comme du temps supplémentaire. Il y a certains cas pour certaines sortes d'emplois, ça ne sera pas la norme de base de 40 heures par semaine qui va être utilisée comme la semaine normale de travail. Des exemples d'emplois pour lesquels ce ne sera pas cette norme-là, c'est entre autres les salariés qui travaillent en dehors de l'établissement et dont les heures sont incontrôlables. Un étudiant qui sera employé dans une colonie de vacances ou dans un organisme à but non lucratif comme un organisme de loisirs. Un cadre dans une entreprise. Un salarié qui fait de la mise en conserve, de l'empaquetage ou de la congélation de fruits et légumes lorsque c'est la période des récoltes. Ou encore un salarié dont la fonction est d'assumer la garde ou de prendre soin d'un enfant, d'un malade, d'une personne handicapée ou d'une personne âgée dans le logement de cette personne-là. Puis dans cette notion-là d'assumer la garde ou de prendre soin d'une autre personne, on inclut aussi le fait d'effectuer des travaux ménagers qui seraient directement reliés aux besoins immédiats de la personne. Dans d'autres cas, le gouvernement peut aussi, par règlement, décider qu'une semaine normale de travail sera pas celle de 40 heures, puis en déterminer une autre pour certains salariés. Donc, la semaine normale de travail peut aussi être étalée sur une base haute qu'hebdomadaire. La moyenne des heures de travail, dans ce cas-là, toutefois, elle doit être équivalente à la norme prévue par la loi ou les règlements. Donc, ce que ça veut dire, c'est que peut-être que pour quelques semaines, la moyenne, le nombre d'heures travaillées pendant la semaine ne sera pas de 40 heures, mais lorsqu'on fait la moyenne de ces semaines-là consécutives, il faut quand même que ça soit équivalent à la norme qui a été fixée par le gouvernement. Donc, s'il y a un étalement des heures de travail qui est fait, il faut que ça résulte soit d'une décision de l'employeur qui a été autorisée par la CNESST. Sinon, ça peut provenir d'une convention collective sans autorisation de la CNESST. Ou ça doit provenir d'une entente commune entre l'employeur et le salarié sans autorisation de la CNESST. Dans ce dernier cas-là, donc si c'est une entente commune qui a été faite entre l'employeur et le salarié, il y a certains critères à respecter. Donc tout d'abord, il faut que cet accord-là soit constaté par écrit, puis il faut qu'il prévoie l'étalement des heures de travail sur une période maximale de 4 semaines. Ensuite, il ne faut pas qu'une semaine de travail excède plus de 10 heures la norme prévue dans la loi ou les règlements. Puis, il faut aussi prévoir que le salarié ou l'employeur puisse résilier l'entente à la suite d'un préavis d'au moins 2 semaines avant la fin prévue de l'étalement convenu. Maintenant, je vais vous faire une petite énumération des situations qui sont réputées à du temps de travail, donc qui doivent être rémunérées. Donc, si le salarié est à la disposition de son employeur sur les lieux de travail, puis qu'il fait simplement attendre qu'on lui donne du travail, ben ça va être réputé quand même comme du temps où le salarié travaille, donc du temps qui doit être rémunéré. Ensuite, si l'employeur accorde des pauses, il faut que ce temps de pause-là soit considéré comme du temps de travail, y compris la période de repas si le salarié ne peut pas quitter son poste de travail pendant cette période de repas-là. Ensuite, si l'employeur exige un déplacement, bien, le temps nécessaire pour effectuer ce déplacement-là va être considéré comme du temps de travail. Puis enfin, toute période d'essai ou de formation bien, va aussi être considérée comme du temps de travail, donc doit être rémunérée. Dans la dernière capsule, on a parlé du fait qu'un salarié qui se présente à son lieu de travail à la demande de son employeur, puis qui travaille moins de 3 heures consécutives, a quand même droit à une indemnité égale à 3 heures de son salaire horaire habituel. Par contre, il y a certaines catégories d'emplois qui font en sorte que cette règle-là ne va pas s'appliquer parce que la nature du travail ou les conditions d'exécution font en sorte que c'est nécessaire que le salarié fasse plusieurs présences dans une même journée puis pour des périodes de moins de 3 heures à chaque présence. Comme par exemple, on peut penser à un brigadier scolaire ou un chauffeur d'autobus. Cette indemnité-là de 3 heures de travail lorsqu'on se déplace sur son lieu de travail, ne s'appliquera pas non plus à certains emplois qui font en sorte qu'ils sont habituellement effectués en entier à l'intérieur d'une période qui dure moins de 3 heures, comme par exemple un surveillant dans les écoles ou un placier. Donc ça, ça fait le tour un peu de la notion de durée de travail puis de la semaine normale de travail. Maintenant, je vais laisser Alexandra discuter de ce qui touche plus les heures supplémentaires, donc toutes les heures travaillées qui vont être au-dessus de cette limite-là.
Merci, Maude. En fait, il faut savoir que tout travail qui est exécuté au-delà de la semaine normale de travail doit être rémunéré à taux et demi, donc à 150% du salaire horaire habituel. Donc, si on ne parle pas du salaire minimum, bien entendu, mais vraiment du salaire horaire habituel. Si on pense, par exemple, à un salarié qui gagne 20 $ de l'heure, ben c'est vraiment sur cette base-là que l'employeur doit l'utiliser. On exclut aussi ici les primes établies sur une base horaire, par exemple des primes de travail de nuit ou de responsabilités particulières. Aussi, sur demande du salarié ou, par exemple, dans des cas qui pourraient être prévus dans une convention collective, le temps supplémentaire peut être payé par une compensation en temps, donc un congé qui serait d'une durée équivalente aux heures supplémentaires effectuées, majorées de 50%. Donc ici, on pense à un congé qui représente la même proportion en temps que si le temps supplémentaire avait été payé en salaire. Par exemple, un salarié qui effectue 10 heures supplémentaires, le congé doit être équivalent à 15 heures. Ici, par contre, ça ne s'appliquera pas si on est en présence d'une rémunération sur une base annuelle. L'obligation du salarié de travailler en temps supplémentaire est aussi limitée. Donc, quotidiennement, le salarié pourrait refuser de travailler plus de 2 heures au-delà de ses heures habituelles de travail ou plus de 14 heures par période de 24 heures. Donc, si on prend vraiment la période la plus courte qui s'appliquerait entre les deux options. Pour le salarié qui aurait des heures quotidiennes de travail qui seraient variables ou discontinues, ben le droit de refus de ce salarié-là serait acquis après 12 heures de travail dans une période de 24 heures. Sauf s'il y a tellement des heures de travail, le salarié pourrait refuser de travailler plus de 50 heures par semaine dans ces cas-là. Aussi, sauf exception, par exemple si la nature du travail oblige une disponibilité ou que la vie de la sécurité ou la sécurité d'autrui pourrait être mise à risque. On peut penser, par exemple, dans le cas d'un ambulancier, le salarié peut refuser de travailler lorsqu'il n'a pas été informé au moins 5 jours à l'avance qu'il sera requis de travailler. Donc, en conclusion, on a vu aujourd'hui que, sauf exception, la semaine normale de travail est établie à 40 heures, mais qu'il existe toutefois des exceptions. On a aussi vu que ce qui dépasse le temps normal de travail revient à des heures supplémentaires qui doivent généralement être payées à taux et demi ou au moyen d'un congé qui serait équivalent. Puis aussi, on a vu qu'il existe des exceptions au sujet du temps supplémentaire, puis que celui-ci est limité. Donc, on espère que vous avez apprécié notre capsule. Lors de la prochaine capsule, nous parlerons des congés et des jours fériés. Donc, merci beaucoup.
La présente capsule ne contient aucun conseil juridique. La présente capsule a été préparée avec l'aide d'étudiantes en droit bénévole de la section PBSC Université de Sherbrooke. Les étudiantes de PBSC ne sont pas avocates et n'ont pas l'autorisation de fournir des conseils juridiques. La présente capsule ne présente qu'un exposé général de certaines questions juridiques et connexes. Si vous avez besoin de conseils juridiques, veuillez consulter un avocat ou une avocate. Donc, dans cette capsule sur les normes du travail, on va discuter de tout ce qui touche les congés et les jours fériés. En fait, les congés annuels et les jours qui sont fériés, chômés et payés, qui est une notion qu'on va vous expliquer plus en détail pendant la capsule, c'est des jours qui vont être considérés comme des jours de travail puis qui doivent donc être inclus dans les calculs de la semaine normale de travail et des heures supplémentaires. Pour tout ce qui touche la semaine normale de travail et les heures supplémentaires, on vous invite à aller écouter la précédente capsule dans laquelle on a fait des explications plus poussées sur ce sujet-là. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec les périodes de repos et les jours fériés, chômés et payés. Et je vais laisser Alexandra vous expliquer ce qu'il y en a.
Oui. En fait, on a différentes périodes de repos. Par exemple, on a la pause café. Au niveau de la pause café, il n'y a pas d'obligation d'en prévoir. Par contre, si c'est prévu, le salarié va être présumé être au travail, donc il doit être rémunéré. Également, il y a les repas. Ce qui est obligatoire, c'est 30 minutes de repos par tranche de 5 heures de travail. C'est non payé, sauf si le salarié doit demeurer à son poste. Également, il y a les repos hebdomadaires. Donc, on donne 32 heures consécutives par semaine. Par contre, dans le cas d'un travailleur qui serait un travailleur agricole, ce jour de repos-là peut être reporté à la semaine suivante si le salarié y consent, bien évidemment. On a aussi des jours fériés chômés et payés en plus de la fête nationale. Donc, pour les nommer, il y aurait le 1er janvier, il y a le vendredi saint ou le lundi de Pâques qui est au choix de l'employeur. Il y a également le lundi qui précède le 25 mai. Il y a le 1er juillet ou le 2 juillet si ça tombe un dimanche. Il y a le 1er lundi de septembre, le 2e lundi d'octobre et bien évidemment le 25 décembre. Par contre, il y a quelques conditions qui sont en lien avec ces congés fériés-là. Premièrement, le salarié ne doit pas s'être absenté du travail sans autorisation ni raison valable la veille ou le lendemain du congé. Également, le congé va être payé à 1/20 du salaire qui va être gagné au cours des 4 semaines complètes de paye qui précèdent la semaine du congé. Donc, il faut que le salarié ait complété 4 semaines complètes avant le congé. Également, le salarié qui doit travailler ou qui est en vacances lors d'un congé férié aurait droit aussi à un congé compensatoire ou à une indemnité. Même chose si le congé tombe pas sur un jour qui fait pas partie de l'horaire de travail régulier du salarié. Donc, par exemple, si le salarié est en vacances le 25 décembre, ben, il aurait droit à un congé compensatoire ou à une indemnité équivalente. Également, il y a les congés annuels. Pour les congés annuels, ça dépend de la durée du service continu. Qu'est-ce qu'on entend par service continu? En fait, le service continu, c'est la durée qui est ininterrompue durant laquelle le salarié est lié à l'employeur par un contrat de travail. Donc, à moins d'une interruption qui permette de croire à un non-renouvellement du contrat de travail, le service continu court toujours. Par exemple, même si on assiste à plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, pour ce sujet-là, on vous invite à voir les premières capsules sur le contrat de travail où on en parle, le service continu continuerait à se calculer. En matière d'exemple de congé annuel, on pourrait prendre un salarié qui aurait droit au congé annuel et qui compterait moins d'un an de service continu. Dans ce cas-là, le salarié aurait droit à un jour de congé par mois de service continu jusqu'à concurrence de 2 semaines. Un salarié qui compte un an ou plus de service continu, lui, aurait droit à un congé annuel d'une durée minimale de 2 semaines continues. Donc, on voit qu'il y a une différence entre selon si le salarié a travaillé moins d'un an ou un an et plus. Également, il y a des exclusions au niveau du congé annuel. Comme on a déjà parlé de ça, il y a par exemple les étudiants employés dans une colonie de vacances ou un organisme à but non lucratif. Ou également, malheureusement, les stagiaires attachés à un programme de formation professionnelle qui est reconnu par une loi. Dont on a traité dans une capsule précédente. On va maintenant parler des congés familiaux et parentaux. Donc, Maud, je te laisse la parole.
Et merci. Dans le fond, il y a plusieurs sortes de congés familiaux et parentaux qui sont prévus par les normes du travail. Il y a plusieurs de ces congés-là qui sont prévus dans la loi, mais les caractéristiques, donc s'ils vont être payés ou non, le nombre de jours de congé ou le nombre de jours d'absence auxquels on a droit, va vraiment dépendre des situations. Donc ici, le but, c'est pas de vous faire une liste exhaustive de tout ce qui existe puis de ce qui s'applique dans chacun des cas, parce que ça serait beaucoup trop long, mais simplement vous aviser de quelques situations qui vous donnent droit à des congés ou à des absences. Puis si jamais vous vous retrouvez dans une de ces situations-là, bien, on vous invite à aller consulter la loi sur les normes du travail pour savoir exactement le nombre de jours de congé auxquels vous avez droit, puis aussi si vous avez le droit à un congé payé ou non. Donc, pour plusieurs de ces congés-là, on va faire référence à la notion de « parent ». Puis, juste pour que ça soit clair, dans le fond, la notion de parent, ça va inclure non seulement le conjoint du salarié, mais aussi son enfant, son père, sa mère, les frères et sœurs ou les grands-parents du salarié ou de son conjoint. Ça va aussi inclure tous les conjoints des personnes que je viens de vous nommer, leurs enfants et les conjoints de leurs enfants. Il y a aussi d'autres personnes qui vont être considérées comme des parents d'un salarié pour l'application de ces congés-là, même s'ils n'ont pas nécessairement de liens familiaux ou de sang, si on peut appeler ça comme ça. Donc, ces personnes-là, ça serait des personnes qui ont agi, par exemple, comme famille d'accueil pour le salarié ou son conjoint, des personnes qui ont été en famille d'accueil chez le salarié ou un conjoint, donc l'enfant qui aurait été placé en famille d'accueil. On va aussi prendre en compte le tuteur, le curateur ou la personne qui est sous tutelle ou sous curatelle pour le salarié ou son conjoint. Une personne inapte dont le salarié ou son conjoint a été considéré comme mandataire, ou toute autre personne dans le cadre de laquelle le salarié a droit à des prestations en vertu d'une loi pour l'aide et les soins qu'il lui procure en raison de l'état de santé de cette personne-là. Donc, on répète encore une fois que il existe vraiment beaucoup de congés familiaux et parentaux. Donc, ce qu'on vous présente, c'est vraiment pas une liste exhaustive. Juste une petite énumération de certaines situations qui donnent droit à des congés. Donc, si jamais il y a un parent qui décède ou qu'il y a des funérailles pour le décès de ce parent-là, le salarié va avoir droit à des jours de congés. Puis l'enfant, le nombre de jours de congés, fait qu'il soit payé ou non, va dépendre du lien qu'avait le salarié avec la personne qui est décédée. Si le salarié se marie ou s'unit civilement, il a aussi droit à des congés. Lorsqu'il y a la naissance, l'adoption d'un enfant ou une interruption de grossesse après la 20e semaine, ça donne aussi le droit à des congés. Ensuite, il y a un cas qu'on connaît bien qui est en fait, on a droit à des congés si notre présence est requise pour des obligations qui vont être liées à la garde, à la santé ou à l'éducation d'un enfant. Généralement, ça, c'est 10 jours de congés par année auxquels on a droit pour cette raison-là. Ces 10 jours-là aussi vont s'appliquer pour si notre présence est requise par l'état de santé d'un proche. Ensuite, si un proche qui a une grave maladie ou un accident grave et qu'on doit s'en occuper, ça va plutôt se compter en semaines. Ça peut tourner autour de 16 semaines pour un proche. Si jamais c'est notre enfant mineur qui atteint une grave maladie ou qui a eu un accident grave, ça peut aller jusqu'à 36 semaines. Puis si un proche a une maladie grave ou potentiellement mortelle, ça pourrait être jusqu'à 27 semaines le congé. Ensuite, c'est bien connu, un certain nombre de congés qui sont prévus pour la grossesse et la maternité, puis aussi pour la paternité. Puis ces deux congés-là sont à différencier du congé parental, qui est une autre sorte de congé auquel on a droit. Donc, dans les cas que je viens de vous mentionner, il y a certains congés qui peuvent être quand même longs. Donc, dépendamment de la longueur du congé, l'employeur pourrait demander au salarié de fournir une pièce justificative, notamment d'un médecin s'il y a un cas de maladie grave ou d'accident grave, par exemple. Puis aussi, le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible. Puis aussi, la règle générale, c'est qu'il doit prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour essayer de limiter le plus possible la prise et la durée du congé. Donc, ce que je viens de vous énumérer, c'est des congés qui peuvent être payés ou non, dépendamment des circonstances. Mais la loi sur les normes du travail prévoit aussi ce qu'on appelle des absences. Donc, c'est des raisons pour lesquelles le salarié a le droit de s'absenter du travail. Donc, notamment pour cause de maladie, d'accident, de don d'organes, de violence conjugale ou de violence à caractère sexuel. Ça peut aussi être une absence qui est liée à un acte criminel, à une situation ou à un suicide. Ou ça peut être une absence qui est liée à une opération des forces canadiennes.
Donc, dans cette capsule-là, on a parlé des différents congés, repos et jours fériés. On a aussi vu qu'il y avait plusieurs conditions à respecter dans le cadre des différents congés, donc il est important pour un salarié de s'assurer qu'il s'applique bien à lui et de quelle façon. On a aussi vu, lors des dernières capsules, tout ce qui touche le salarié au sujet du salaire, de la durée du travail et des différents congés. Donc, lors de la prochaine capsule, on va surtout traiter des recours, en fait, qui pourraient être utilisés par le salarié dans le cadre du droit du travail et qui touchent ce qu'on a traité précédemment dans les autres capsules. Donc, on vous remercie et à la prochaine.
et des balles, répondre à tes relances. Ton ami m'écrit en ton nom, elle attend ma réponse. 2020, ma chérie, parlons-nous comme du monde.
Je recherche quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux.
Capsule ne contient aucun conseil juridique. La présente capsule a été préparée avec l'aide d'étudiantes en droit bénévole de la section PBSC Université de Sherbrooke. Les étudiantes de PBSC ne sont pas avocates et n'ont pas l'autorisation de fournir des conseils juridiques. La présente capsule ne présente qu'un exposé général de certaines questions juridiques et connexes. Si vous avez besoin de conseils juridiques, veuillez consulter un avocat ou une avocate. Donc, bienvenue à cette dernière capsule sur les rapports individuels en matière de droit du travail. Donc, aujourd'hui, on va traiter des recours. Dans le fond, les recours, c'est on va expliquer un peu qu'est-ce qui est possible de faire si jamais les normes du travail qu'on a présentées dans les précédentes capsules n'ont pas été respectées. Ben, quel est le processus à faire? Qu'est-ce qu'on peut espérer avoir comme compensation, etc. Donc, en lien avec les normes du travail, il existe 4 recours. Il y a la plainte pécuniaire, la plainte pour pratique interdite, la plainte pour congédiement injustifié et la plainte pour harcèlement psychologique. Dans le fond, aujourd'hui, on va juste parler des 3 dernières parce que la plainte pécuniaire vise seulement à aller chercher un montant d'argent. Donc, on en a discuté à la 2e capsule qui traitait du salaire et des pourboires. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette procédure-là, bien, on vous invite à aller écouter la capsule numéro 2. Mais sachez qu'il existe 4 recours, mais que dans cette capsule, on va discuter de seulement 3. On va commencer avec la plainte pour pratique interdite. Donc, comme le nom de cette plainte-là l'indique, ici, on va viser une violation des normes du travail dans le sens qu'un salarié pourrait dire que le traitement qu'il a reçu n'aurait pas dû se produire puis que c'est un traitement qui est interdit. Lorsqu'on se rend compte de cette situation-là, on a 45 jours pour agir puis déposer une plainte pour pratique interdite. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit aller voir la CNESST. Puis si la CNESST ne réussit pas à régler la situation avec l'employeur, on va judiciariser l'affaire, ce qui veut dire qu'on va aller devant le tribunal administratif du travail. Pour qu'on puisse déposer une plainte pour pratique interdite, on va avoir quelques éléments à démontrer. Donc, premièrement, il va falloir démontrer qu'on est un salarié au sens de la loi sur les normes du travail. Donc, ça, on l'a vu dans la première capsule, mais c'est pas nécessairement toutes les personnes qui travaillent au sein d'une entreprise qui sont considérées comme des salariés au sens de la loi. Donc, il faut vraiment faire attention puis aller consulter la définition. Ensuite, il va aussi falloir démontrer qu'on a exécuté un droit qui est protégé par la loi sur les normes du travail. Puis c'est vraiment important de préciser quel droit a été exercé. Pas seulement dire qu'on a exercé un droit puis de rester plutôt vague. Ensuite, il faut démontrer qu'on a reçu une mesure face au droit qui a été exercé. Donc, qu'on a été congédié ou suspendu, par exemple. Il faut aussi démontrer qu'il existe un lien entre l'exercice du droit et la mesure qui a été reçue à cet effet. Puis enfin, le dernier critère à respecter, c'est qu'il faut que le dépôt de la plainte respecte le délai. Donc, j'ai mentionné que c'est un délai de 45 jours. Puis malheureusement, si ce délai-là n'est pas respecté, ben la plainte ne pourra pas aller de l'avant puis on ne pourra pas entreprendre de recours. Donc, si on réussit à démontrer tout cela, l'employeur va être présumé avoir puni le salarié pour un droit qui est exercé, puis c'est l'employeur qui va devenir fautif. En fait, ce qui va arriver, c'est qu'en quelque sorte, ça va être à l'employeur d'expliquer la sévérité de la sanction qu'a imposé au salarié. Ça va être à lui de renverser cette présomption de faute-là. Il va falloir qu'il le fasse en démontrant qu'il existe une autre cause juste et suffisante que l'exercice du droit, donc un motif réel et sérieux d'avoir sanctionné le salarié. Il faut que cette cause-là soit juste et suffisante, puis ça doit pas être seulement un prétexte. Donc, par exemple, si on a une entreprise qui a fait une fusion avec une autre entreprise, puis là, à la suite de cette fusion-là, il y a trop de comptables. L'employeur décide d'en laisser partir deux, mais ça donne que ces deux personnes-là ont constamment fait valoir leurs droits au sein de l'entreprise. Donc, dans cette situation-là, on va présumer que l'employeur a volontairement renvoyé ces deux personnes-là en raison du fait qu'elles exerçaient, même si c'est légitimement, leurs droits, puis l'employeur n'a pas le droit de faire ça. Donc, ici, le choix de laisser partir ces deux personnes-là ne serait pas valable parce qu'on comprend que c'est calculé de la part de l'employeur parce que ces personnes-là lui faisaient du tort en s'assurant que leurs droits étaient respectés au sein de l'entreprise. Par contre, si l'employeur avait utilisé des motifs objectifs, comme par exemple la durée du service continu, la polyvalence ou les compétences pour faire son choix, bien, elle aurait pu cesser le lien d'emploi correctement. Donc, en fond, le processus de la plainte interdite, de la plainte pour pratique interdite, pardon, c'est de s'assurer que l'employeur a des raisons valables de sanctionner le salarié pour des motifs objectifs.
On va maintenant parler de la plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante. Vous allez voir, en fait, le recours peut ressembler à celui qu'on vient de voir. Par contre, les deux visent un objectif vraiment différent. Donc, pour ce recours-ci, en fait, c'est une protection contre les congédiements. Et ça s'applique seulement dès qu'un salarié a 2 ans de service continu. Donc, c'est vraiment très important. Pour ce qui est de la définition de service continu, on vous invite à voir la capsule précédente dans laquelle on a défini ce qu'était le service continu. Au niveau de la plainte en question, comme pour le recours de la plainte pour pratique interdite, en fait, il y a un délai pour faire valoir cette plainte-là, qui est de 45 jours après le congédiement sans cause juste et suffisante. Donc, au niveau de la procédure à suivre, on va d'abord aller à la CNESST. Puis, si le dossier ne se règle pas à cette étape, dans le fond, l'affaire va être portée devant le tribunal administratif du travail. Devant le tribunal administratif du travail, le salarié va devoir démontrer des éléments, donc un peu similaire à ceux qu'on a parlé tout à l'heure. En fait, le salarié doit démontrer qu'il est un salarié au sens de la loi sur les normes du travail. Puis, comme on l'a vu par le passé, la définition de salarié, en fait, est assez variée et comprend certains critères, donc c'est pas toutes les personnes qui dans le fond répondent à cette définition là, donc c'est vraiment important de vérifier que dans le fond on répond à la définition de salarié. Il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y ait au moins 2 ans de service continu, également qu'il ait été congédié sans cause juste et suffisante. Qu'est-ce qu'on entend par cause juste et suffisante? En fait, ça serait un motif réel et sérieux qui s'avérerait pas être un prétexte. Donc, dans ce cas-là, ça serait l'inverse que le salarié devrait démontrer. Également, il doit démontrer qu'il n'y a aucun recours équivalent au sein de l'entreprise. Donc, par exemple, un salarié qui serait syndiqué, ben il faudrait qu'il aille devant un arbitre de grief. Également, le dépôt de la plainte doit respecter le délai de 45 jours. Puis ça, c'est vraiment important, car sinon, la plainte va être rejetée par le tribunal administratif du travail. Également, si le salarié, dans le fond, a été en mesure de démontrer tout ça, il va y avoir une présomption à l'effet que le congédiement n'était pas justifié. Donc, dans les faits, que ça démontre, c'est que à première vue, on considère que le congédiement était pas justifié. Ça va être à l'employeur par la suite à démontrer que c'est pas le cas. Pour renverser cette présomption-là, l'employeur va devoir établir que finalement, ben il y avait une cause juste et suffisante qui justifiait le congédiement. Si on prend par exemple un salarié qui demande à être payé en temps supplémentaire, puis l'employeur refuse de le faire, le salarié décide que, dans le fond, il veut se faire justice soi-même et vole de l'argent dans la caisse. L'employeur le congédie. Le salarié va déposer une plainte, puis comme il y a 2 ans de service continu, en fait, il va déposer la plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante. Donc, à partir de là, ça va être à l'employeur de démontrer que c'était pas le cas et de renverser la présomption.
Donc, on va terminer avec le dernier recours, qui est le recours en harcèlement psychologique. Donc, qu'on va définir comme du harcèlement psychologique, ça va être habituellement un comportement qui est répétitif. Donc, c'est pas passé juste une fois, à moins que ce soit un cas qui est suffisamment grave. Donc, cette définition de harcèlement va être plutôt large. Ça va être plus large que ce qu'on retrouve dans la charte, parce que dans la charte, le harcèlement doit porter sur un des motifs qui est énuméré dans le texte. Tandis qu'ici, ça pourrait être le cas d'une conduite qui est vexatoire. Donc, ça peut être un comportement, des paroles, des actes, des gestes. C'est pas obligé d'être une action, ça pourrait être une omission. Mais tout ça doit être hostile et non désiré. Donc, c'est pas nécessairement relié. Il n'y a pas de motifs précis qui doivent être... ça ne doit pas nécessairement porter sur des motifs précis pour que ça soit du harcèlement psychologique au sens des normes du travail, contrairement à ce qui est prévu dans la charte. Donc, la situation de harcèlement psychologique va être analysée par la personne raisonnable dans les mêmes circonstances. Ça, c'est un concept auquel on a fait référence dans d'autres capsules si vous voulez plus d'informations. Dans le fond, ce qu'on veut dire par analyser par une personne raisonnable, c'est que parfois, une personne peut se sentir harcelée, par exemple, si son employeur lui dit qu'elle effectue mal son travail, mais que dans les faits, ça constitue pas vraiment du harcèlement psychologique. Ensuite, pour le droit de gérance ou l'application de mesures disciplinaires, ben, on peut pas dire que c'est du harcèlement, à moins que ça soit clairement un abus. L'obligation de l'employeur par rapport au harcèlement psychologique a deux volets. Donc, il y a un volet qui est préventif. Donc, l'employeur doit prendre des mesures pour prévenir le harcèlement psychologique, notamment par l'établissement d'une politique. Le deuxième volet de l'obligation, ça va être au niveau de l'intervention. Donc, si l'employeur est au courant d'une situation qui pourrait mener à du harcèlement, bien, il doit intervenir afin de faire cesser ce harcèlement-là. Puis, le harcèlement peut provenir de plusieurs sources. Ça peut être des collègues, des superviseurs, ça peut même être des clients. Pour une entreprise qui est syndiquée, on prévoit que l'ensemble des dispositions qui traitent du harcèlement est réputé être inclus dans la convention collective. Donc, si on est dans une situation de harcèlement psychologique, il faudra déposer un grief et non pas une plainte à la CNESST. En fait, la prescription fait en sorte qu'on a 2 ans depuis la dernière manifestation de harcèlement pour déposer une plainte. Ensuite, la CNESST va faire une enquête. Il va y avoir une possibilité de médiation qui va être offerte. Si la médiation n'a pas lieu ou si jamais elle n'est pas fructueuse, le litige va alors être entendu devant le TAT, qui est le Tribunal administratif du travail, si on est dans le cas d'un salarié non syndiqué. Si c'est un salarié syndiqué, ça va plutôt être devant un arbitre de grief. Ce qu'on veut dire quand on parle de prescription puis qu'on a 2 ans depuis la dernière manifestation de harcèlement, c'est qu'on peut faire une plainte dans les 2 ans de la dernière manifestation, mais ça peut nous permettre de faire ressortir d'autres événements de harcèlement qui auraient eu lieu, même si c'est plus de 2 ans auparavant.
Donc, c'est ce qui conclut notre série de capsules sur les normes du travail. Donc, on a pu discuter de l'application de la loi sur les normes du travail, du salaire, de la durée du travail et des différents congés. Puis aussi, comme on vient de voir aujourd'hui, des recours possibles par les salariés en cas de faute par l'employeur. Donc, on vient de toucher à tout ce qui concerne le droit du travail sur le plan individuel. Dans les prochaines capsules, on va aborder le droit du travail, mais sur le plan collectif, donc ce qui touche, entre autres, les conventions collectives. Donc, on vous remercie, puis en espérant que vous ayez apprécié.